Bonjour, bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir une exposition très forte à la BNF à Paris, intitulée « Les manuscrits de l'extrême ». Ensuite, nous rencontrons une éleveuse de brebis en Isère qui a subi la perte de son cheptel et qui tente de se reconstruire. Et enfin, nous visitons un jardin chinois tout à fait unique en France qui vient d'ouvrir dans le Morbihan. Mais avant tout cela, c'est l'actu de ce mardi 9 avril. Bonjour Denis Farou.
Bonjour Frédéric Le Ternier, bonjour à tous.
Carlos Ghosn martèle son innocence et dénonce un coup monté de dirigeants de Nissan après sa nouvelle interpellation.
Il est de nouveau en prison depuis quelques jours. Il avait enregistré une vidéo avant qu'il avait confié à ses avocats.
On va repasser par la case retraite avec aujourd'hui les pensions de reversion au programme des négociations.
Il pourrait y avoir du nouveau pour les veufs et les veuves dans la réforme. Cela dit, on discute toujours, ce n'est pas plié.
On va se poser des questions très simples ce midi à propos du Brexit, histoire d'éclaircir ce feuilleton qui se complique de jour en jour.
En attendant, Nicolas Ballu, que vient faire Theresa May ce mardi à Berlin et à Paris?
Elle vient demander un report du Brexit, encore un, et elle va peut-être l'avoir.
On va découvrir le dénouement d'une enquête qui dure depuis 10 ans pour des faits qui ont 75 ans.
L'identification d'un fusillé par la Gestapo en 44 dans le Béarn, on sait enfin de qui il s'agit grâce à la persévérance d'un policier.
Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Carlos Ghosn est de nouveau en prison depuis jeudi dernier, mais il avait pris soin d'enregistrer une vidéo avant d'être incarcéré.
C'est cette vidéo dans laquelle l'ex-patron de Renault-Nissan clame son innocence et attaque des dirigeants de Nissan que ses avocats ont diffusé ce matin, Laurent Kramer.
Tout ce que vous entendez sur moi est faux, il s'agit d'une trahison, d'une conspiration. Je ne suis pas ce personnage que l'on vous décrit depuis des semaines dans cette procédure japonaise, explique Carlos Ghosn.
Le premier message est que je suis innocent, et je suis innocent aussi de toutes les accusations portées contre moi. Des éléments déformés, totalement sortis de leur contexte. Tout cela pour peindre un personnage cupide, un personnage proche d'un dictateur. Il s'agit bien d'un complot, d'un coup de poignard dans le dos. Voilà la réalité.
Leur nom n'est jamais prononcé, mais Carlos Ghosn désigne à l'origine de cette présumée cabale contre lui l'exécutif et les managers de Nissan qui redoutaient, selon l'ancien PDG, une fusion de l'entreprise japonaise dans l'alliance avec Renault. Carlos Ghosn craint également de ne pas avoir de procès équitable, mais réaffirme au passage sa fascination et son admiration pour le Japon.
Laurent Kramer et les déclarations de Carlos Ghosn enregistrées avant son retour en prison et diffusées ce matin.
La Société Générale a confirmé le plan social annoncé en février avec des détails à la clé.
La banque va supprimer 1600 postes dans le monde, dont environ 750 en France. Et si on reprend précisément le communiqué, pour certains périmètres, dans le cadre d'un plan de départ volontaire, la Société Générale emploie 148 000 personnes dans le monde.
On a parlé de baisse d'impôts hier avec la restitution des éléments du grand débat. Voici les impôts tout court maintenant.
Prélèvement à la source ou pas, on fait encore sa déclaration cette année. Ce sera peut-être la dernière fois, on attend la confirmation. On peut déclarer ses revenus 2018 à partir de demain sur impots.gouv.fr ou sur papier, c'est encore possible jusqu'au 16 mai, un peu plus tard si on utilise Internet.
Autre sujet sensible sur la table, la retraite, au moment où l'on négocie les futurs contours pour ceux qui partiront dans quelques années.
Déjà une précision de la nouvelle porte-parole du gouvernement sur l'âge légal du départ après la cacophonie des dernières semaines, Sibeth Ndiaye.
Il ne s'agit pas de modifier l'âge de départ à la retraite. Les choses sont claires dans le cadre de cette réforme.
Mais on sait bien que l'âge légal ne fait pas tout, on y reviendra. Pour l'heure, on négocie entre partenaires sociaux les pensions de reversion.
Expliquez-nous, Sarah Lemoine, ce qui se passe actuellement et vers quoi on pourrait aller.
Il y a déjà deux certitudes. Les pensions de réversion ne vont pas disparaître dans la future réforme des retraites. Elles auront toujours vocation à garantir le niveau de vie d'un veuf ou d'une veuve après le décès du conjoint. Mais quel niveau? C'est toute la question, alors qu'il s'agit de construire une règle commune pour les salariés, les fonctionnaires et les indépendants qui aujourd'hui ne bénéficient pas tous de la réversion, ou alors pas de la même façon, puisqu'il existe des conditions d'âge, de ressources, de remariage, voire de durée de mariage différentes selon les régimes. Ce que préconise l'entourage du haut commissaire, c'est un changement de logique. Demain, on ne calculerait plus la pension de réversion à partir de la retraite du conjoint décédé, mais à partir du montant global des pensions du couple. Cela favoriserait celui qui touche la plus petite retraite au sein des ménages où il existe de gros écarts. Un scénario dans lequel il n'y aurait plus de conditions de ressources, tout le monde pourrait donc en bénéficier, à condition toutefois d'être marié, la piste d'un élargissement au couple pacsé n'ayant pas été retenue à ce stade.
Sarah Lemoine et les pensions de reversion en discussion.
Theresa May est à Berlin et à Paris ce mardi pour plaider un report du Brexit avant un sommet européen crucial demain à Bruxelles.
Vous avez déjà dit ça la semaine dernière.
Mais oui, mais je le redis. Brexit comme British Exit, c'est-à-dire la sortie de l'Union.
Franchement, on se met à votre place. Pour suivre les méandres de cette sortie de l'Union qui rebondit de jour en jour depuis des semaines, voilà pourquoi nous vous proposons, avec la complicité de Nicolas Ballu, des réponses simples à des questions simples.
Et voici la première, Nicolas. Est-ce que le Royaume-Uni peut sortir de l'Europe ce vendredi comme c'était prévu après déjà un premier report?
Théoriquement, oui, mais c'est très théorique. Il faudrait que Theresa May représente une quatrième fois son accord conclu avec l'Union européenne, qu'il soit entériné par les députés britannique et sans délai technique, mais ce n'est pas un scénario crédible aujourd'hui. L'autre possibilité, c'est une sortie sans accord, mais Theresa May va donc demander un nouveau report du Brexit jusqu'au 30 juin.
Et est-ce que l'Europe peut accorder demain un délai supplémentaire au Royaume-Uni ?
Oui, et c'est même probable. L'Union européenne avait certes dit le 12 avril, c'est la dernière date possible pour un report, mais l'Union européenne ne semble pas vraiment vouloir d'un no deal, donc pourquoi pas un nouveau report limité ? Mais il y a un mais, comme disait Theresa. Pourquoi faire ?
C'est toujours la même question.
Ah oui, et rien n'avance outre-Manche. Les discussions avec l'opposition ne donnent rien. Et donc, la France et quelques autres pays estiment qu'une demande d'extension est prématurée. Autre possibilité, un scénario flexible proposé par le président du Conseil européen, Donald Tusk, un report d'un an environ qui laisse du temps aux Britanniques.
Mais justement, est-ce que les Britanniques pourraient voter aux élections européennes du mois de mai s'ils ne sortent pas tout de suite ?
Ah. Eh oui, c'est ubuesque. Le gouvernement a pris ses dispositions, ce serait le 23 mai, les élections auraient lieu le 23 mai. On se retrouverait donc dans une situation assez étrange, des députés élus qui pourraient ne pas siéger si l'accord avec l'Union européenne est voté d'ici là, ou bien ils pourraient siéger, mais les pays de l'Union qui normalement doivent se voir attribuer des sièges devraient patienter.
Allez, une dernière question pour la route, Nicolas Ballu. Est-ce que les Britanniques pourraient changer d'avis et rester dans l'Union européenne ?
Theresa May s'y refuse publiquement et il existe une forte pression pourtant. C'est évidemment le cauchemar des Brexiters, comme on dit. Et par exemple, un report assez long serait assez cauchemardesque pour eux. L'un de leurs chefs de file va jusqu'à dire « Si une longue extension nous laisse coincés dans l'Union européenne, nous devrions nous montrer aussi pénibles que possible. » Donc certains pays craignent que l'Union européenne se retrouve prise en otage. Quant au pro-Brexit, certains se disent qu'ils voudraient finalement peut-être mieux voter l'accord proposé par Theresa May.
Tout va bien, on a les questions à nos réponses, Frédéric Le Tournier.
Les réponses à nos questions plutôt.
Oui, c'est ça. Nicolas Ballu et les Brexiters.
13h08 sur France Bleu, la suite du Nord en France, ce sera avec un référendum dans le monde du rugby et les affiches foot de la Ligue des Champions. Et on vous raconte maintenant cette histoire incroyable qui trouve son dénouement 75 ans après. On vient d'identifier un homme exécuté par la Gestapo en 44 grâce à la persévérance d'un policier.
Un policier de la PJ qui a mené l'enquête pendant 10 ans sur son temps libre. Il voulait savoir qui avait été fusillé avec son grand-père. 4 hommes avaient été identifiés, pas le 5e. C'est fait. Il s'appelle Georges Coran, d'Air-sur-Adour, au nord de Pau, Daniel Corsan.
Il s'est d'abord accroché à un détail, l'étiquette de ce tailleur d'Air-sur-Adour cousu dans la veste du fusillé. Puis, il y a cette lettre aux archives, une veuve commerçante à Air, en plumes et chiffons, qui demande des nouvelles d'un homme sans le nommer. En même temps, Eric retrouve la tombe du fusillé dans une nécropole dédiée aux résistants anonymes à Lyon. Dans un livre sur la résistance, il tombe sur le nom de Georges Coran, un patronyme qui apparaît dans la généalogie de la vendeuse de plumes et chiffons. Nouveau tour de force, obtenir l'exhumation à Lyon de l'inconnu. Il compare son ADN avec celui d'un petit-neveu encore vivant de Coran, négatif. Il fait alors le pari que les pères ne sont pas toujours les pères. Il obtient cette fois l'exhumation de la mère de Georges Coran à Mont-de-Marsan. L'ADN correspond à 99,99%. On ne peut pas rêver mieux.
Daniel Corsan à France Bleu Béarn.
Et on écoute le policier qui a fait cette enquête. Il voulait savoir, il sait depuis le début de la semaine, Éric Amouraben.
Une grosse émotion et quelque part un peu, disons que j'attends depuis tellement longtemps que le résultat m'a presque laissé un peu indifférent au départ, parce que j'avais du mal à y croire en fait. Assez vite après, j'ai réalisé et là je me suis dit, bah, ça y est, en fait je suis arrivé au bout. Donc ça c'est effectivement une grande émotion, un grand plaisir.
Une aventure de 10 ans, pourquoi tant d'entêtement ?
Peut-être un peu trop béarné, je ne sais pas. Je savais que j'étais dans le vrai. Même si j'en ai douté par moments, c'est vrai que Déjà petit, on voyait ce nom gravé en lettres d'or inconnues. Ça suscite quand même la curiosité. C'est vrai qu'on se demandait toujours qui c'était. Ça permet de mettre une image, effectivement, sur ces cinq personnes qui se sont retrouvées ce jour-là, le 15 juin, entre 18h et 20h, à Hydron, dans un petit bois. Donc c'est vrai que c'est important, ça me paraissait essentiel.
Le policier qui voulait savoir qui avait été fusillé avec son grand-père en 44, bravo en tout cas pour sa persévérance.
Et on va reparler de la Seconde Guerre mondiale tout à l'heure, avec cette exposition, les manuscrits de l'extrême, à la Bibliothèque nationale de France à Paris, ce sera aux alentours de 13h20.
Et notamment de ces mots, jeter des trains de déportation que l'on a retrouvés et qu'on a du mal à lire parfois, tellement ils sont poignants, mais il faut les lire.
Quelques nouvelles extra-sportives avant de regarder le foot sur le terrain.
Alors déjà, Pelé, le roi Pelé, qui avait été hospitalisé à Paris après sa rencontre avec Kylian Mbappé, est sorti de l'hôpital en route de retour donc chez lui au Brésil. Pelé, 78 ans, a conservé son humour. Il a déclaré être prêt à rejouer.
Et puis Antoine Griezmann est papa pour la deuxième fois.
Un petit garçon, Amaro, qui est né le même jour que sa grande sœur Mia, qui a 3 ans. Ce sera pratique pour fêter les anniversaires. Vous pensez que la famille Griezmann ne va faire qu'un seul gâteau ?
Non, je ne sais pas. Là, aucune idée, franchement. L'équipe de France féminine de football continue de nous ravir, en tout cas avec ses matchs de préparation à la Coupe du Monde, qui va se dérouler en France, évidemment. Ce sera dans 2 mois.
Les Bleus déroulent 4-0 face au Danemark à Strasbourg après la victoire sur le Japon à Auxerre. Pour l'instant, tout va bien.
C'est une soirée Ligue des Champions chez les hommes avec les quarts de finale. Allez.
Tottenham, Manchester City, Liverpool, Porto ce soir, avant demain Ajax, Juventus Turin et Manchester United, Barcelone. On a bien remarqué, vous la première, qu'il y avait 4 équipes anglaises encore en course. Ouais. En football, les Britanniques ne quittent pas la scène européenne.
Un référendum sportif est en cours avec cette question. Seriez-vous d'accord avec la nomination d'un sélectionneur étranger à la tête du 15 de France masculin ?
La question est posée par Bernard Laporte aux 1800 clubs amateurs de France. Le scrutin est ouvert depuis ce matin et pour 2 jours, Jérôme Val.
L'homme providentiel peut-il venir des antipodes ? Bernard Laporte a contacté à plusieurs reprises Warren Gatland, un néo-zélandais qui a remporté 3 grands chelems avec le Pays de Galles. Il attend pour confirmer son choix le verdict des clubs amateurs, dont celui de Neuilly en région parisienne. Pour son président Christophe Renaud, cette réflexion va dans le bon sens.
Je trouverais très intéressant qu'on pose un regard neuf, parce que vraisemblablement, en mettant le meilleur des entraîneurs français, on n'y est pas arrivé, donc c'est peut-être qui nous manque ce regard neuf.
Le débat est loin d'être tranché, les questions restent nombreuses. Qu'en sera-t-il de l'identité du 15 de France, le fameux French Flair ? Un étranger arrivera-t-il à travailler avec les acteurs du top 14 ? En tout cas, cette idée est hors de propos pour Benjamin Perrier, président du club de Drancy en 4e division.
Je pense qu'il y a d'autres problématiques dans l'équipe de France que la nationalité de l'entraîneur. C'est plutôt un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté. Le top 14 qui n'est pas très bénéfique pour l'équipe de France.
Le rugby français prépare peut-être sa révolution, un tournant opéré depuis longtemps chez nos voisins britanniques. L'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande sont dirigés par des étrangers depuis plusieurs années déjà.
Jérôme Val est le futur sélectionneur de l'équipe de France, peut-être étranger.
C'est l'anniversaire de Jean-Paul Belmondo aujourd'hui, il a 86 ans.
Demain, ce sera l'anniversaire de Claude Bolling, le pianiste-compositeur de la célèbre musique de Borsalino.
Bah oui, un film avec Belmondo.
Nous y voilà, quand on réunit les deux, ça donne ça.
Thank you.
Borsalino, le film de Jacques Deray en 70 avec Belmondo.
Il y avait Alain Delon évidemment aussi.
Oui, et une musique de Claude Bouling. Apparemment, vous le connaissez.
Ah, j'adore ce film, ça donne envie de le revoir. Allez, dans un instant, on découvre les manuscrits de l'extrême, une agricultrice qui essaie de remonter la pente, et puis un jardin chinois en Bretagne.
Ça veut dire que notre route nous emmène à Paris, en Isère et dans le Morbihan après la météo.
FranceBleu.fr. Toute la musique de France Bleu, quand vous voulez, où vous voulez, comme vous voulez.
Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.